Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Sylvain Carton.
Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un très grand plaisir que le magazine littéraire de RFI accueille pour sa première émission de 2018, et je vous souhaite à nouveau une excellente année, un romancier français qui nous raconte des histoires comme personne. Bonjour Pierre Lemaître.
Bonjour.
4 ans après Au revoir là-haut, récompensé par le prix Goncourt et récemment adapté au cinéma par Albert Dupontel, vous nous proposez une suite, non pas avec les mêmes personnages, vos deux héros principaux ont quitté la scène, mais dans la continuité d'une époque fascinante. Et après les dégâts de la Première Guerre mondiale, voici une nouvelle décennie qui s'ouvre en 1927 et nous mène aux portes de la Seconde Guerre mondiale. Couleur de l'incendie, puisque c'est le titre, paru aux éditions Albin Michel, s'ouvre sur une chute terrible, celle d'un enfant de 8 ans qui se jette d'une terrasse au moment même des obsèques de son grand-père. Or, cet événement tragique fait aussi écho à la chute qui clôturait le précédent volume. Est-ce pour nous faire comprendre, Pierre Lemaître, que c'est aussi à la décadence d'une certaine France que vous faites référence dans ce roman ?
Il y a plusieurs... Bonjour à tous d'abord, bonjour, je suis content d'être avec vous, avec les auditeurs de RFI. Il y a plusieurs raisons. La première raison est un petit peu esthétique. Alors c'est un peu prétentieux, mais il y avait une sorte d'élégance à ce que Au revoir là-haut se soit terminé sur une chute et de commencer Couleur de l'incendie avec une autre chute. Avec là aussi un personnage jeune, Édouard Péricourt était un très jeune homme lorsqu'il meurt dans Au revoir là-haut, et là on a un petit garçon de 8 ans. Donc il y avait le désir pour le lecteur de faire une sorte de clin d'œil et de dire, voyez, on a terminé sur quelque chose, on va bien repartir de là. Mais où vous avez raison, c'est que c'est une période de multiples chutes. C'est la chute de la morale, c'est la chute de la République, c'est la chute de la sincérité, c'est la chute du courage. Donc en fait c'est un roman qui s'ouvre avec une chute et qui en dessine beaucoup d'autres.
Et en même temps j'ai envie de dire pas tout à fait Pierre Lemaître, parce que, et c'est le génie de votre écriture, cette chute n'est pas mortelle, l'enfant survit, sans ses jambes mais il survit, de même que Au revoir là-haut commençait avec une scène spectaculaire sur un champ de bataille, un homme tombe dans un trou, il se croit mort, un cheval l'écrase et ouf, il ressuscite. Donc à nouveau, j'ai envie de dire qu'il y a cette notion très importante dans votre univers littéraire de la deuxième chance.
Oui, mais très franchement, j'y avais pas réfléchi sous cet angle-là. C'est toujours intéressant de discuter avec les lecteurs comme vous, parce que on découvre sans arrêt des nouvelles strates dans ce qu'on veut dire. Vous savez, on a un peu trop l'impression, je crois, quand on est un lecteur, que le romancier maîtrise tout ce qu'il fait. En vérité, c'est bien que le lecteur sache qu'il y a une grande part de ce qu'on appelle l'inconscient du texte, c'est-à-dire de choses qu'on n'a pas vraiment maîtrisées, mais qui indiscutablement sont là présentes. Et je pense que vous avez raison, j'ai rien de plus à ajouter. Il faudra pas trop raconter non plus le livre. J'espère que c'est un roman d'aventure et que chaque chapitre apporte une nouvelle surprise. C'est effectivement, ce petit garçon qui fait une chute le jour de l'enterrement de son grand-père va ouvrir une grande aventure qui est au moins autant la sienne que celle de sa mère Madeleine.
Alors, je ne vais pas trop en raconter. Je vous promets, Pierre Lemaître. Mais il faut quand même dire que cette idée de la deuxième chance est incarnée ici, oui, par votre personnage principal, Madeleine Péricourt. Alors, on l'avait croisée, cette jeune femme, dans Au revoir là-haut. C'était la sœur d'Edouard, un des deux héros qui était revenu de la guerre avec une gueule cassée. Et là, elle est au cœur du récit, ce qui donne d'ailleurs au roman une couleur très féministe. Est-ce parce que vous avez voulu rendre aux femmes la place centrale qu'elles avaient mérité pendant la Première Guerre mondiale et qui ensuite leur a été dénié.
Oui, tout à fait. Vous parlez de la seconde chance. Je crois que le concept est très opérant. Je pense que Madeleine, elle aussi, d'une certaine manière, est une femme qui réclame une seconde chance. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant la Première Guerre mondiale, les femmes ont tenu les fermes et les industries. Elles étaient en droit de réclamer, à l'issue de la Première Guerre mondiale, une reconnaissance de leur statut. Il n'en a rien été. Elles ont été renvoyées à la cuisine, pour être clair. Et elles sont redevenues ce qu'elles étaient avant, ce que Simone de Beauvoir appelait des êtres relatifs, c'est-à-dire toujours relatifs à un homme, relatifs au père, relatifs au mari, mais toujours un être qui n'est pas vraiment entier. Et Madeleine va avoir une deuxième chance, elle aussi. Au fond, elle a été une femme de l'ombre du temps de son frère, une femme de l'ombre du temps de son père, et maintenant, elle est la seule sur la scène, elle est donc à la tête d'un petit empire bancaire, et donc on pourrait dire que c'est une deuxième chance. Mal va lui prendre de vouloir jouer de cette chance, parce qu'elle vit dans un milieu d'hommes, or elle a le pouvoir, et s'il y a une chose que les hommes ne supportent pas dans les années 30 comme aujourd'hui, c'est que les femmes aient le pouvoir.
Effectivement, et nous sommes toujours dans la première partie de votre Absolument. Roman, Pierre Lemaître, puisque Madeleine, cette héritière à la tête de l'empire financier qui lui échoua puisque son père, on l'a vu, décède dans la première scène, mais Madeleine, elle est seule, elle est divorcée, son fils Paul tétraplégique, elle est mal conseillée, elle est mal entourée, et la deuxième chute au sens allégorique du terme, elle perd toute sa fortune suite à une machination dont elle a été victime. Et j'ai envie de dire, Pierre Lemaître, peut-être que c'est aussi à l'image de la France, elle est ruinée, comme si c'était aussi le grand sujet de votre roman, l'argent, ou plus exactement le manque d'argent et la dette, 14 milliards je crois ici, que l'État doit rembourser.
Oui, le roman est conçu comme une sorte de salutation au roman du 19e siècle.
Et il y a Zola, par exemple.
Il y a Zola du côté du déterminisme des personnages. Et il y a, vous avez raison de le souligner, l'argent, c'est-à-dire la dimension un peu balzacienne. C'est-à-dire que l'argent est l'un des moteurs de l'histoire. Alors, c'est l'un des moteurs de l'histoire au 19e siècle, mais on pourrait dire que l'argent est le moteur de l'histoire tout court, au fil des temps et au fil des siècles. Mais c'est aussi le moteur de cette histoire, c'est-à-dire que l'argent va être un analyseur. Au fond, un analyseur de la situation de la France, analyseur de la situation des femmes, analyseur de la place que les femmes ont par rapport aux hommes et la place hégémonique que les hommes occupent sur la scène française dans les années 30. Donc vraiment, c'est un outil qui est le révélateur absolu de cette période-là.
En tout cas, c'est déjà une époque très contemporaine concernant la fraude fiscale qui, on le voit avec vous, est très répandu, déjà il y a 80 ans. C'est un peu vertigineux, non, cet écho à ce qui se passe aujourd'hui?
Oui, c'est un peu vertigineux. Je pense qu'il faut être attentif lorsque l'on compare les années 30 avec aujourd'hui. Pour ma part, je n'ai pas fait un livre visant à nous démontrer qu'aujourd'hui ressemblerait aux années 30. En revanche, vous avez raison d'utiliser le mot d'écho. Il y a des résonances qui sont effectivement de temps en temps simplement amusantes, de temps en temps inquiétantes et de temps en temps franchement décourageantes. La fraude fiscale fait partie des résonances décourageantes. On voit dans les années 25, 30, 35 que les gouvernements se confrontent à une fraude fiscale qui est très bien organisée déjà dès ce moment. C'est le moment de la naissance en Suisse des comptes numérotés, donc du secret bancaire. On voit que la SDN, la Société des Nations de l'époque, envoie déjà des messages au gouvernement en disant la fraude fiscale représente un manque à gagner absolument terrible. Et donc on pourrait se dire, quand on entend à cette époque-là les hommes politiques la main sur le cœur disant on va éradiquer la fraude fiscale, on pourrait se dire bon, ils y sont arrivés depuis. Or, finalement, c'est à peu près le même discours qu'on entend aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ça, franchement, il y a des choses qui sont très décourageantes.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières en compagnie aujourd'hui de l'écrivain français Pierre Lemaître avec qui nous parlons de ce nouveau roman Couleur de l'incendie. On l'a dit depuis le début de cet entretien, c'est un livre qui se déroule dans les années 30 en France, époque trouble d'entre-deux-guerres où tous les coups sont permis, des montages financiers plus ou moins honnêtes dont est victime ici votre héroïne Madeleine Péricourt qui dans l'esprit du comte de Monte Cristo ourdit une vengeance implacable contre ceux qui ont abusé de sa confiance. Et là, Pierre Lemaître, Vous faites montre d'une inventivité de rebondissement, d'un style virevoltant, nerveux, qui glisse d'un genre à l'autre, d'un registre à l'autre, avec même quelques petites incursions où vous interpellez très discrètement le lecteur, comme si vous ne vouliez jamais lui lâcher la main. Est-ce que c'est en effet l'une de vos préoccupations de romancier ?
Absolument. Alors là, je le revendique totalement. Je me conduis comme un feuilletoniste. C'est-à-dire qu'au fond, j'essaye de reproduire dans les romans les plaisirs que j'avais étant jeune à découvrir. Vous avez tout à fait raison de dire de Monte Cristo, puisque ce livre est une salutation à mon maître Alexandre Dumas. Et j'ai repris simplement la structure du conte de Monte Cristo. Effectivement, vous avez une première partie avec une ruine, une deuxième partie avec une vengeance. La surprise étant la manière dont les choses se passent. Je me conduis comme un feuilletoniste, c'est-à-dire j'essaye de faire en sorte que le lecteur, de rebondissements en suspense, de fausses pistes en surprise, eh bien, trouve sans cesse du plaisir, et grâce à ce plaisir, j'essaie de lui faire passer des émotions qui tentent de lui expliquer comment je vois le monde. Au fond, la littérature est une machine à décrypter le réel, et j'essaye, avec l'émotion que je provoque chez le lecteur ou chez la lectrice, eh bien, de faire comprendre la manière dont je vois les choses. Vous savez, quand j'étais un jeune lecteur et que je lisais Dumas, rien ne me plaisait plus que le moment où Dumas écrivait « Le lecteur se souvient sans doute que notre... » Bon, et ces moments-là étaient des moments où je me sentais proche d'Alexandre Dumas, où j'avais l'impression que mon père me racontait une histoire. Et j'essaye, et c'est mon travail stylistique, j'essaye en permanence de donner au lecteur l'illusion que je lui raconte l'histoire à voix haute.
Et vous mettez un soin très particulier à désamorcer toutes les idées que nous, lecteurs, pourrions avoir sur la suite des événements. J'ai l'impression qu'il y a un travail de mécanique très précis, voire d'horlogerie.
Mais Catherine, je viens du roman policier. Je viens du roman policier, c'est mon lait. Mes 10 premiers livres étaient des romans noirs et des romans policiers, dans lesquels ce que vous dites là fait partie des contraintes du genre. C'est-à-dire, si vous voulez donner un roman policier, si vous voulez être honnête avec le lecteur ou la lectrice, quand vous donnez un roman policier, vous lui donnez le roman avec toutes les règles du genre. Or, quand j'ouvre moi ma boîte à outils le matin et que je me mets au travail, qu'est-ce que je trouve dans ma boîte à outils ? Des outils qui viennent du roman policier. Donc, même quand j'écris un roman historique, je les écris avec les recettes, avec les outils du roman policier, parmi lesquels il y a effectivement l'attention permanente à ne pas faire des choses prévisibles, à surprendre le lecteur et lui provoquer du plaisir de l'emmener là où il ne pensait pas pouvoir aller.
Autre coup de génie de ce roman, la galerie de personnages, pour reprendre cette expression très consommée, mais le fait est qu'ici vous mettez vraiment en place une troupe au sens acteur du terme,
au sens théâtral du
terme,
oui,
de
oui.
Femmes et d'hommes. Alors c'est réaliste et comique, tragique, donc défilent les banquiers, les politiciens, les ouvriers, les journalistes, et avec au-dessus du lot quand même 4 femmes.
Ouais.
Madeleine, on l'a dit, mais aussi Léonce, jeune femme aussi ravissante que Filoute, Vladi, dame de compagnie polonaise qui ne dira pas un seul mot de français tout au long du roman, et Solange, Galitano, cantatrice. Vous avez dû jubiler quand même, Pierre Lemaître, en inventant ces 4 caractères qui montrent aussi beaucoup plus de courage que leurs homologues.
Oui, je n'ai pas voulu faire un roman de femme. Mais le fait est parce que, vous savez, une histoire, elle a un code génétique. Et dans le code génétique de celle-ci, il y avait des femmes. Et donc, je me suis dit, j'avais pas hésité à faire un roman d'homme avec Au revoir là-haut, j'ai pas hésité à faire un roman de femme, parce que l'histoire me l'offrait. Et je me suis amusé, au fond, à faire cette espèce de galerie, vous avez tout à fait raison de le dire, galerie de femmes. Elles sont de générations différentes, elles sont de nationalités, de langues différentes. Elles ont toutes quelque chose, c'est d'être des femmes des années 30, avec la difficulté qu'était de vivre le rôle d'une femme. Prenons Madeleine. Au fond, de quoi est-elle coupable? Elle est coupable d'avoir joui, elle est coupable d'avoir pris un plaisir de femme. C'est parce qu'elle a eu un amant que tout va arriver. C'est parce qu'elle a le pouvoir que tout va arriver. Et au fond, toutes ces femmes-là sont des femmes résilientes. C'est-à-dire, ce sont des femmes à qui il arrive des malheurs et qui vont avoir pour principale mission de survivre. Et pour cela, il faut de la résilience. Et donc, vous avez raison, du courage.
Alors, comme on s'attache énormément à Madeleine, évidemment, on partage coude à coude ses démarches vengeresses. Mais néanmoins, force est de constater que parfois elle piège ses ennemis avec de fausses preuves. On est un peu loin de la morale là, Pierre Lemaitre.
Moi je crois qu'on est très très loin de la morale.
Bon,
au fond,
va.
Mais oui, vous comprenez, ce qui va se passer c'est que Madeleine va se venger, elle va utiliser des outils très immoraux. La grande question que le lecteur va se poser, c'est avait-elle raison, avait-elle tort? C'est la question que nous posons à la fin de Monte Cristo, c'est la question qu'Edmond Dantès pose au lecteur avec dans les dernières pages, dans les 100 dernières pages de Monte Cristo, des doutes sur la vanité de la raison pour laquelle il s'est vengé. Il se demande s'il a bien fait de faire tout cela. Et moi, je pense que cette morale ne doit pas appartenir au romancier et qu'elle ne doit pas davantage appartenir au personnage. Cette morale doit appartenir au lecteur et à la lectrice. J'écris une histoire. À certains égards, quand on est une mère de famille, on peut comprendre pourquoi Madeleine se met en colère et pourquoi elle fait les choses. Et en même temps, intellectuellement, on peut contester le fait qu'elle l'ait fait. Donc c'est un personnage qui va nous poser des questions et les réponses seront apportées par ceux qui lisent le livre. Je pense que chacun doit faire son métier. Le jugement moral, c'est le métier du lecteur.
Alors arrêtons-nous aussi un instant sur Solange, diva dans tous les sens du terme, dont le chant va sauver d'ailleurs le jeune Paul de sa léthargie, qui par ailleurs va jouer un tour de cochon aux nazis lors d'un concert à Berlin. Solange dont vous dites... Son talent, elle le doit entièrement à la peine, au chagrin, parce que c'est son signe de naissance. Elle est une enfant de la douleur, du début à la fin. Fermez les guillemets. Est-ce à dire qu'il faut avoir souffert pour avoir du talent, Pierre Lemaitre?
Non, je ne crois pas, mais il se trouve que c'est son cas à elle. Tous ceux qui ont du talent n'ont pas souffert et ne doivent pas leur talent à la souffrance, mais il se trouve que elle, oui. Et j'aurais tendance à penser que c'est grâce à sa peine qu'elle nous fait ressentir autant d'émotions. Et ça, c'est le rôle des artistes.
Et vous, Pierre Lemaitre, vous souffrez pour écrire
ou... Non, j'ai honte. J'ai honte, Catherine. Je devrais souffrir, je devrais être christique et dire que l'angoisse de la page blanche me tétanise. Non, je me mets le matin à ma table de travail avec un solide appétit. Vous avez prononcé tout à l'heure le mot que je préfère, c'est celui de jubilation. Alors, c'est un métier qui n'est pas toujours marrant, mais quel métier est tout le temps marrant? Dans tous les métiers, même ceux qui nous passionnent le plus, il y a des moments amusants, des moments qui le sont moins, puis il y a des grands moments où, franchement, on préférait faire autre chose. Mais moi, j'ai choisi d'être romancier et je suis fidèle à ma décision, fidèle au plaisir que je prends, fidèle à mon lectorat. Et mon lectorat, il aime que je jubile. C'est comme ça que je m'exprime et je crois que c'est comme ça que nous nous retrouvons, le lecteur et moi. Je jubile, c'est-à-dire les personnages m'amusent. Quand une scène m'enthousiasme, j'ai envie de transmettre cet enthousiasme au lecteur. Quand un personnage me fait de la peine, j'ai envie de transmettre cette peine au lecteur. Et en fait, tout ce que vous ressentez dans le roman, s'il est réussi et qu'il vous concerne et qu'il vous plaît, ben ce sont des choses que j'ai ressenties à ma table de travail, c'est ma manière de parler avec vous.
Et ce deuxième livre, si j'ai bien compris, est le deuxième d'une longue série?
Écoutez, c'est déjà le début d'une trilogie. Déjà, ce serait bien, si Dieu me prête vie, peut-être on ira un peu au-delà. Mais dans l'immédiat, c'est une trilogie qui est consacrée à l'entre-deux-guerres. Elle a commencé avec Au revoir là-haut en 1920. Elle se poursuit avec Couleur de l'incendie en 1930. Et le troisième volume va couvrir La drôle de guerre et l'exode de 1940. Elle ira donc de la fin de la Première Guerre mondiale au début de la Seconde Guerre mondiale. Quand j'aurai fait cette petite photographie de la manière dont je vois cet entre-deux-guerres, alors je regarderai pour voir si je peux la poursuivre au-delà de la Seconde Guerre mondiale, vers les années des Trente Glorieuses, peut-être vers les années 80, peut-être un peu plus tard. Tout ça, moi j'ai très envie de le faire. Alors donc, je fais cette confidence, puisque nous sommes tous les deux là à discuter sans témoin. J'ai très envie de le faire, mais c'est un projet un peu gigantesque, c'est un projet un peu prétentieux, mais en même temps, on ne devient pas romancier par excès de modestie.
Non. Une nouvelle comédie humaine.
Écoutez, vous me prêtez bien du talent pour me comparer à Balzac. En tout cas, il y a quelque chose de modestement balzacien dans l'idée de faire une sorte de photographie de la période, au moins pendant laquelle se passent les différents romans que je publie.
Je vous prête surtout beaucoup d'énergie.
Oui,
beaucoup,
j'ai de l'énergie,
d'enthousiasme.
Je ne manque pas. S'il suffisait de l'énergie pour écrire de bons livres, alors non, effectivement, j'aurais encore un peu de temps devant moi.
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Pierre Lemaitre, je rappelle le titre de ce magnifique roman qui a un panache fou, Couleur de l'incendie, qui est apparu aux éditions Albin Michel, et a signalé aussi la sortie de l'album graphique Brigade Verhoeven, Rosie, signé Berthaud et Corbos, qui se sont inspirés de votre roman et qui vient de paraître aux éditions Rue de Sèvres. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint.
Sylvain Carton.